m'appelle Jeanne de Villers-la-Fay. Nous sommes en Bourgogne, entre Nuit-Saint-Georges et Beaune, là où il y a les plus belles vignes de France, on va dire. Sauf que nous, on habite à côté, et je crois, j'en suis sûre, on a dû manger, nous, du pesticide. Il n'y a plus une abeille, il n'y a plus rien. C'est presque à pleurer. Sur mon balcon, j'en avais plein. J'en ai plus. Aidez-nous. C'est le coin de la Bourgogne qui est le plus beau, mais qui est le plus touché, et nous aussi. Vous ne pourriez pas faire quelque chose? Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.
Bonjour, je m'appelle Fabienne, j'habite une commune de la banlieue bordelaise. Je vous appelle parce que je viens d'entendre l'émission avec là sur l'agriculture bio, l'interview de Valérie Lassenec. Ben, écoutez, moi, je témoigne de ce qui se passe pour ma fille. 36 ans, eh ben, écoutez, elle s'est installée seule, en bio, avec un projet d'être sans mécanisation. Tout est dur, tout est compliqué, et surtout parce qu'il n'y a pas de personnel pour l'aider. Et en plus, un peu beaucoup en but à l'hostilité de certains voisins. Rien n'est facile. Au revoir.
Je suis Jean-Pierre de Sarlat. Alors, on nous parle de réchauffement climatique, mais on ne dénonce jamais ces clubs tels le Paris Saint-Germain et Lille qui sont allés faire leur compétition en Chine. Donc, il faudrait dénoncer cela. Merci, au revoir.
Bonjour, la Terre au Carré. Je suis Marie d'Ardèche, d'un petit village d'Ardèche, dans le Haut-Vivarais. J'ai appelé pour dire que monsieur le président Macron n'est pas très crédible en défenseur de la mer, alors qu'il s'affiche pendant ses vacances à Brégançon avec un scooter des mers qui est l'invention la plus stupide et la plus néfaste de ces dernières années. Eh bien, merci pour vos émissions et à bientôt.
Salut la Terre au Carré, c'est Mathieu, bienvenue dans la plus belle ville du monde à Marseille.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
L'équipe de la Terre au Carré fait donc escale cet après-midi à Marseille pour le congrès mondial de l'UICN, c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, présenté comme l'événement environnemental le plus important au monde. Ce congrès se déroule jusqu'au 11 septembre au Parc Chano. Il rassemble toute la communauté internationale de la conservation de la nature, depuis les gouvernements jusqu'aux scientifiques, en passant par les représentants des peuples autochtones. Jusqu'à 15h avec Camille Cronier, nous allons vous emmener dans les coulisses de ce congrès, à la rencontre des femmes et des hommes qui viennent du monde entier, vous allez le voir, et qui n'ont qu'une seule idée en tête, développer des solutions pour protéger et préserver le vivant. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu et bonjour tout le monde.
14h30, Camille passe au vert avec la bonne mine de la fille qui est allée quand même au soleil.
Je suis allée un peu à la mer hier aussi pour le travail, bien absolument. Évidemment, je vous en parlerai mercredi. Mais d'ici là, moi j'ai parlé avec pas mal de Marseillais pour savoir ce qu'ils pensaient du congrès. Et puis j'ai ouvert les yeux ici, il y a 2-3 choses qui m'ont un petit peu interpellée, donc je vous en parle dans un instant.
Et puis bien sûr, amis auditrices et auditeurs, vous pouvez réagir sur la biodiversité en nous envoyant vos messages et vos notes vocales sur l'application France Inter. Voilà pour le message de cette émission, réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Chantal Le Montagnier, avec l'équipe technique marseillaise Dominique Allard, Lucien Lefebvre et Martin Troidec.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré, sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle et je suis parc du projet Amazonie 2.0 et nous sommes ici pour parler sur notre effort dans l'Amazonie avec les communautés indigènes pour protéger les forêts.
Bonjour Sébastien Moncor.
Bonjour Mathieu, ravi de vous retrouver ici à Marseille.
Vous êtes donc le directeur du comité français de l'UICN. Alors, quel est l'enjeu majeur pour un congrès comme celui-là et qu'est-ce que vous attendez d'important finalement à l'issue de cette grande manifestation le 11 septembre?
Alors l'enjeu majeur, c'est aujourd'hui de répondre à cette crise accélérée de l'érosion de la biodiversité et d'y mettre fin à une échéance la plus proche possible, plutôt 2030, et même de commencer à s'engager sur la voie de son rétablissement, de sa reconquête. et on a besoin pour cela d'organiser ce grand congrès. Donc l'UICN, c'est le rassemblement de tous les acteurs de la biodiversité dans le monde, vous l'avez dit, des gouvernements, des agences publiques, des ONG, des peuples autochtones, des scientifiques, pour qu'on identifie ensemble les enjeux et les solutions à apporter pour mettre fin à cette crise d'érosion de la biodiversité.
Et vous pensez qu'un congrès comme ça, ici à Marseille, ça va suffire ?
C'est un événement absolument nécessaire, puisqu'on voit que la crise de la biodiversité est aujourd'hui finalement aussi grave que celle du climat. Et donc, on a besoin de mesures énergiques, urgentes. Et donc, on a besoin de l'UICN pour donner vraiment ce coup d'envoi d'une nouvelle mobilisation, d'un nouvel engagement de l'ensemble des acteurs et de déployer beaucoup plus largement dans les territoires des actions de préservation des espèces, des forêts, des zones humides, de mettre aussi la nature au cœur des solutions de la lutte contre le changement climatique.
L'UICN, les gens, quand ils connaissent l'UICN, savent que c'est un organisme qui publie régulièrement les fameuses listes rouges sur les espèces en danger ou les espèces en voie d'extinction. Il y a une nouvelle liste là qui a été publiée ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes et surtout, est-ce qu'il y a des nouvelles espèces en danger ou peut-être des bonnes nouvelles ?
Alors, on a à la fois les deux. Donc, le constat global, c'est que l'érosion de la biodiversité, malheureusement, se poursuit hein, sur les espèces, avec notamment une diminution d'abondance. Donc, vous savez, on a une espèce d'oiseau sur 8 qui est menacée aujourd'hui au niveau mondial, une espèce de mammifère sur 4, une espèce de récif corallien sur 3. Dans cette nouvelle édition de la liste rouge qui a été présentée, on a à la fois des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles.
Bon, alors on commence par les mauvaises.
Alors, si on commence par les mauvaises, c'est la situation des requins et des raies qui, malheureusement, s'aggrave, principalement en raison de la surpêche. C'est le cas, par exemple, d'espèces comme le grand requin marteau. Si je prends un exemple plus national, on a par exemple l'ange de mer qui a quasiment disparu des côtes françaises. Donc une pression accrue, une surpêche sur ces différentes espèces. Donc on est à maintenant 37% des espèces de requins et de raies qui sont menacées au niveau mondial. Et la bonne nouvelle, c'est pour les espèces de thon, donc les espèces principalement commercialisées dans le monde, et notamment le cas du thon rouge de l'Atlantique.
Alors, ça veut dire qu'on peut continuer d'en manger ?
Alors, il porte le nom d'Atlantique, mais il est aussi présent en Méditerranée. Et en fait, il est, lui, maintenant, sorti des catégories de menaces de la liste rouge. C'est-à-dire qu'il n'est plus considéré comme une espèce menacée, parce que on a su réagir à temps en 2014, et sur des recommandations justement de l'UICN, pour mettre en place des quotas de pêche, pour dire on était dans une situation de surpêche, et si on n'agissait pas pour réguler la pêche du thon atlantique, il aurait aujourd'hui disparu.
Donc concrètement, on a renversé la balance en combien
Exactement,
de temps ? En combien de temps ?
Eh bien, entre 2014 et là, 2021.
Donc c'est hyper court. Voilà. Donc on peut faire des choses concrètes de façon très rapide.
Voilà. Je vous posais la question, les gens connaissent beaucoup le thon rouge dans leur assiette, donc c'est pour ça que je vous demandais, ça veut dire qu'aujourd'hui il faut quand même faire très attention à sa consommation toujours de poissons et particulièrement thon rouge, ou si je prends le thon rouge en particulier dont vous venez de parler, les gens peuvent continuer d'en acheter
Ça veut dire qu'on peut consommer du thon beaucoup plus en confiance. Après, je ne voudrais pas faire d'appel.
Faut rester
à la consommation. Voilà, faut qu'on reste dans une consommation raisonnée. Ouais. Il y a aussi, vous savez, sur la pêche, en fait, quand on regarde des questions un petit peu plus complexes de stock, c'est-à-dire au-delà de la même dénomination, on peut avoir des stocks qui vont bien et d'autres qui vont moins bien. Donc il faut toujours être vigilant. Mais en tout cas, c'est la bonne nouvelle qui a été publiée hier.
Sébastien Moncor, je me suis fait tatouer cet animal sur mon bras, là, ici, au Congrès. Est-ce que vous en parlez dans la liste rouge ? Vous le reconnaissez, ce dragon préhistorique ?
Le Komodo.
Voilà, dragon de Komodo. Il est dans la liste aussi. Hein.
Voilà, alors le dragon de Komodo est dans la liste. Et malheureusement, son état, en fait, s'aggrave. Enfin, on pense qu'il va s'aggraver, c'est pour ça qu'il a eu une catégorie de menace supplémentaire. Et là, c'est intéressant parce que pourtant c'est une espèce qui bénéficie, qui est dans une zone protégée, le parc national de Komodo, qui est aussi un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais malheureusement, en raison des changements climatiques qui vont provoquer une élévation du niveau de la mer, une élévation des températures, Le dragon de Komodo est menacé aujourd'hui.
En un mot, Sébastien Moncor, pour dire aux gens que la biodiversité, le dragon de Komodo, les requins dont vous avez parlé sont très importants pour notre vie à nous, humains, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les gens qui ne se rendent pas compte que tout ça c'est important pour notre vie ?
Il faut voir la biodiversité vraiment comme l'ensemble du tissu du vivant, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ensemble de ces espèces qui font fonctionner la planète. Et ce qui est important et ce qu'on souhaite rappeler aussi, c'est que l'homme, enfin les humains, sont une espèce parmi d'autres et que nous sommes étroitement dépendants de l'ensemble de ces espèces. Et ce qui caractérise aujourd'hui la crise d'extinction de la biodiversité par rapport aux autres, c'est que ce sont les activités humaines qui en sont responsables. Et donc, nous avons une responsabilité forte pour maintenir le vivant sur Terre.
Et la crise du Covid nous l'a rappelé, évidemment, et nous le rappelle encore. Merci beaucoup, Sébastien Moncor. Donc, Congrès mondial de la nature, c'est ici, donc au Parc Chanot, à Marseille. Et bien sûr, le public, bah, il est le bienvenu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses pour lui.
Oui, c'est ouvert, hein, c'est pas payant, c'est gratuit, donc, autrement dit, septembre. Jusqu'à samedi, oui.
Merci beaucoup, Camille. Bah, justement, samedi dernier, donc oui. Il y a deux jours, on a rencontré beaucoup d'enfants dans la serre aux papillons, qui est installée donc, ici.
Juste derrière nous, là.
Voilà. Et bien, voici le petit sujet que nous avons enregistré sur place. Bon, alors là, Camille, on a une serre aux papillons, visiblement, parce qu'il y a d'énormes papillons qui sont présents.
Gigantesques. Franchement, j'avoue, il me ferait presque peur. Ouais.
Donc, on va pénétrer à l'intérieur. Ça te fait pas peur, les papillons?
Justement, elle a un petit peu peur de rentrer.
Ah, elle avait peur?
Ouais, elle craint un peu tout ce qui vole, tout ça.
C'est maman qui t'a embarqué ici?
Oui, pour m'apprendre à faire attention à la nature. Ah, oh, maman, regarde les papillons! Waouh! On dirait une libellule!
On va aller à l'intérieur, comme ça on va voir ce qui se passe, ça va être plus rigolo, on va carrément être avec les papillons. Oui. Bonjour Gabriel.
Bonjour Mathieu.
Il y a l'OPI. C'est quoi l'OPI?
C'est l'Office pour les insectes et leur environnement. C'est une association qui s'intéresse à promouvoir la connaissance des insectes par le public et nous nous intéressons aussi à promouvoir des actions pour la conservation des insectes.
Mais ça marche bien votre serre, Gabriel, parce qu'il y a plein de monde à faire la queue, même s'il faut attendre évidemment, mais les petits ont l'air assez impressionnés quand même, parce que
les
papillons
grands,
sont énormes. Il y a une peur du papillon?
Non, c'est un intérêt. Je crois que ici nous avons... Alors, il y a certaines espèces de petite taille, mais vous en avez de grandes tailles, comme le galigot qui est ici. On voit une grande tache sur l'aile postérieure. Alors, le papillon, celui-ci, fait 17-18 cm d'envergure. Ouais. C'est un papillon d'Amérique du Sud.
Galigot.
Oui, le nom latin, c'est le galigot. En français, on va parler de papillon hibou. Il se reconnaît facilement parce que vous avez une grande tache en forme d'œil sur l'aile postérieure. Les spécialistes appellent ça des ocelles parce que ça fait penser à des yeux. Et ces yeux permettent de protéger le papillon par rapport à des prédateurs potentiels qui vont dire « Oula, non là il y a un hibou, je ne vais pas m'approcher ». En fait c'est un papillon, il risque rien. Mais en attendant, le papillon il a la vie sauve. Alors ça ne marche pas avec tous les prédateurs possibles, mais au moins avec certains.
Voilà, donc on va faire attention aussi, Camille, à ne pas les écraser parce qu'il y en a partout.
Si j'en écrase un, c'est la honte.
Alors là, on est dans la serre avec Camille.
Absolument.
Et les enfants qui sont là en train de regarder. Je vois, vous pulvérisez tout le temps, en fait. Il faut humidifier beaucoup les plantes.
Oui, c'est des papillons tropicaux. Puis on essaie effectivement de faire en sorte qu'ils ne se dessèchent pas au cours du temps. Donc effectivement, ouais. On pulvérise. Oui. Un beau soleil aujourd'hui à Marseille.
Est-ce qu'il y a beaucoup de menaces pour les papillons dans le monde, tiens?
Alors, en tout cas, en France, oui. Et notamment l'urbanisation, l'agriculture intensive, l'uniformisation des paysages avec la monoculture. Donc effectivement, on a une diminution de la biodiversité. Et cet habitant qui est si précieux aux papillons, la nature qui se développe libre, ben effectivement, on la retrouve plus forcément.
J'entends des cris d'enfants au fond, je vais aller voir ce qui se passe.
Oui. Il y avait un mini papillon qui était dehors.
Restez sans danger.
Qui avait peur des papillons tout à l'heure? On a entendu
Bonjour.
Des cris. C'était toi?
Qu'est-ce qui se passe?
Et alors? Un grand jeune homme comme toi, tu as quel âge?
11 ans.
11 ans?
Ben, maintenant, j'ai plus peur.
Ah. Merci.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que t'aies peur et d'un coup plus peur?
Bah parce qu'en fait après j'ai vu des papillons qui étaient sur moi, alors du coup j'ai plus peur.
Est-ce que Gaëlle, vous arrivez justement à apprendre aux parents, aux enfants à avoir moins peur des insectes alors? C'est fréquent cette peur?
Ah oui, c'est très fréquent, mais on essaye de leur expliquer qu'il n'y a aucun danger avec les papillons qu'on présente ici, que les insectes en général c'est uniquement si on les embête qu'ils vont se défendre.
Ça pique un papillon?
Non, pas du tout.
Ah, donc un papillon, c'est complètement inoffensif.
Un papillon, c'est totalement inoffensif. Il y a quelques chenilles qui peuvent potentiellement piquer, mais c'est vraiment rare. Et les papillons, ils ont une trompe et 6 pattes. Donc aucun problème, il n'y a pas de risque que les papillons vous fassent du mal.
Et c'est quoi la solution, Gaëlle, pour protéger les papillons qui sont visiblement menacés, en France en particulier, comme nous le disait Ulysse là tout à l'heure?
Alors moi, je suis animatrice du plan national d'action en faveur des papillons de jour. Et c'est un plan qui permet de conserver ces espèces dans les zones naturelles.
Et j'avais un papillon sur la tête.
Et ça vous va bien.
Merci. Et donc des actions aussi de communication et de sensibilisation sur le sujet pour que le grand public justement puisse connaître ces espèces. Ce qu'on conseillerait aux personnes de faire, c'est vraiment de garder des espaces de nature où on ne tombe pas, on laisse les plantes s'exprimer pour que toute la biodiversité puisse venir.
Voilà, la Terre en carré en direct de Marseille pour le Congrès mondial de la nature. On va se retrouver dans un instant avec la primatologue Sabrina Krief. On va parler grands singes également avec Nicolas Hulot et un invité de l'Ouganda.
Sous les lueurs poignardes du crépuscule sur le parking, on m'a forcé à boire. Et j'ai le pull taché de jean, de grandes lampées, de myrtille, vodka, avalé à la fiole. C'était juste avant que la nuit ne pâlisse et s'étiole. On pousse encore un peu le volume, les gens se bousculent dans le noir. Les ambiances de pogo, de brume, de baisers et de verre au comptoir. J'ai tout tenté pour que tu me vois, j'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Au bout d'un visage, une impasse. Tu m'as souri, puis t'es parti. Depuis, je compte le jour, les heures. Dans la fumée, il est minuit. Je voulais juste que tu me brises le cœur. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi.
Pour te plaire, c'était Team Dup sur France Inter.
Bonjour, je suis Lisette Yebel, je viens du Cameroun pour appeler à soutenir le bassin du Congo. Et nous sommes là, nous vous invitons à venir cet après-midi et durant tout le congrès à soutenir nos efforts en matière de conservation des forêts pour la survie de l'humanité. Merci.
Et au Congrès mondial de la nature, eh bien, on croise également la primatologue Sabrina Krief. Bonjour Sabrina.
Bonjour Mathieu.
Denis qui vient d'Ouganda. Hi.
Hi, I'm Denis Agava from Uganda.
Et Nicolas Hulot. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Bonjour Nicolas.
Alors vous êtes là puisque tout à l'heure à 11h, vous étiez présent pour une conférence autour de la préservation des grands singes. Sabrina Krief, il y a une motion qui a été votée déjà pour l'UICF pour la préservation des grands singes là au mois de novembre. Vous étiez à l'origine justement de cette motion. Ça change quoi concrètement pour ces animaux?
Alors l'idée en fait avec cette motion, c'est de renforcer la conservation en intégrant les acteurs locaux dans les actions de conservation et en essayant d'agir à la fois dans les aires protégées et en dehors des aires protégées. L'idée c'est de structurer un réseau pour que toutes les organisations qui travaillent sur le terrain au quotidien avec des peuples qui vivent à côté des grands singes puissent vraiment devenir moteurs de ces actions de conservation.
C'est quoi justement, pardon, les actions concrètement sur le terrain, c'est quoi?
Alors c'est par exemple lutter contre le braconnage, mettre en place des pratiques agricoles qui soient durables, soutenables et aussi faire de la sensibilisation, participer à l'écotourisme. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a avec nous des Africains, des Asiatiques qui vont nous expliquer comment chaque jour leurs associations travaillent pour la préservation des grands singes.
Mais c'est vraiment une bonne nouvelle cette motion qui a été votée pour ces primates ou pas?
Alors c'est une sorte de feuille de route, donc maintenant il faut réussir à mettre en place ce réseau et à trouver les financements. C'est une bonne nouvelle dans le sens où ça veut dire que les partenaires s'engagent à essayer de mettre en place ça. Ce qu'on espère, c'est renverser un peu la tendance. Pour l'instant, la situation est de plus en plus catastrophique. On n'arrive pas à améliorer la situation. Donc voilà, c'était essayer de trouver ce qui n'avait pas encore été fait et de voir si comme ça, on peut compléter les actions qui existent déjà par des choses vraiment efficaces de tous les jours et pas juste des grandes réunions ou des grands sommets.
Denise, vous donc sur le terrain en Ouganda, vous travaillez, qu'est-ce que vous faites avec des gorilles, je crois, c'est ça?
My job in Uganda, I'm on the regional coordinator for the wildlife clubs of Uganda.
Je suis le coordinateur régional pour les clubs nature d'Ouganda.
And I work on the project of the children and the gorilla conservation.
Et je travaille sur des projets de façon à soutenir les actions de conservation within, des gorilles avec des enfants.
Within Muganga Gorilla National Park and Bwindi National Park.
Dans la zone du parc national de Bwindi et de Muganga, donc qui sont les deux parcs nationaux où il y a des gorilles de montagne en Ouganda.
Combien il reste aujourd'hui de gorilles dans les montagnes ougandaises, Denis?
Today we have 1,063 gorillas.
En tout, il y a 1,600 gorilles.
Which have risen from 720 15 years back.
Alors qu'il n'y en avait qu'à peu près 700 auparavant. Et donc ça, c'est sur trois pays. Hein. C'est sur l'Ouganda, la RDC et le Rwanda.
Et comment se fait-il que ça aille mieux alors, puisqu'on peut au moins se réjouir pour ces animaux?
Yeah, the situation is improving because in the past the situation was not all that good.
Avant, la situation n'était pas bonne.
Because people never knew the importance of the gorillas.
Avant, ils ne connaissaient pas l'importance des gorilles.
And when we involved the children, people came to understand the value of the gorillas.
Quand on a commencé à faire de l'éducation auprès des enfants, les gens ont commencé à comprendre la valeur des gorilles.
The challenge that was there before was that adults never wanted the forest to be there because they wanted them to be cultivated for crop growing.
Avant, les gens voulaient que la forêt soit transformée en zone d'agriculture pour pouvoir planter des aliments.
So when we saw that the attitudes for the adults were not favoring the gorilla survival, we went to the children.
Ce qui ne permettait pas la survie des gorilles, donc on est allé rencontrer les enfants.
Who were their own children.
Qui étaient leurs propres enfants, les enfants des fermiers et des villageois.
And now involving the children, we wanted them to reach their own parents.
Donc, grâce aux enfants, on arrive à toucher les parents.
Aujourd'hui, Denis, Sabrina, la menace qui reste et qui pèse particulièrement sur les gorilles encore, c'est quoi? C'est plutôt l'agriculture, le braconnage?
Alors, dans cette zone, en fait, la menace est vraiment réduite, hein, puisque les populations locales ont pu être impliquées dans les programmes d'écotourisme, soit comme porteurs, guides, mais aussi parce que le développement économique autour est favorable. C'est-à-dire qu'il y a des hôtels, il y a des routes, des infrastructures. Donc, vraiment, les villageois se sont impliqués et c'est un peu le modèle qu'on aimerait pouvoir reproduire ailleurs en Afrique pour la préservation des autres espèces de grands singes, donc chimpanzés, bonobos, gorilles de l'Ouest et évidemment en Asie du Sud-Est aussi pour les orang-outans.
Nicolas Hulot, l'Ouganda et les chimpanzés, vous les connaissez aussi hein, puisque vous étiez en 2019 avec Sabrina justement sur place, donc il y a vraiment beaucoup d'actions à mener autour de ces primates aujourd'hui. En 2018, lorsque vous étiez ministre de la Transition écologique, vous annonciez un nouveau plan pour la biodiversité avec 90 mesures incitatives, puisqu'on est ici au Congrès mondial. Trois ans plus tard, c'est quoi le bilan finalement?
Non mais écoutez, ici comme ailleurs, je crois qu'il faut que, sans polémique, on acte tous notre échec. Enfin, je parle des nations. L'érosion de la biodiversité est une dynamique que pour l'instant on ne contrôle plus. Les moyens ne sont pas à la hauteur. Bon voilà, c'était hier. Je pense que peut-être que ce congrès qui préfigure ce qui va se passer en Chine va provoquer un sursaut. Pas simplement un sursaut de conscience, mais un sursaut de moyens. Mais pour l'instant, la situation consacre un échec collectif de la communauté internationale sur ce sujet. On en parle beaucoup, les moyens sont souvent assez dérisoires. Alors, pas plus dans ce pays qu'ailleurs, il y a des leçons à donner. Mais encore une fois, ce qui est important maintenant, c'est que les intelligences et les volontés s'additionnent. Et surtout qu'on rende indissociables les deux sujets, c'est-à-dire enjeux climatiques et enjeux biodiversité. Sachant que, comme Sabrina le dit, se greffe à ses objectifs un sujet humaniste, puisque le sort des grands singes préfigure le sort de l'humanité.
Vous croyez encore à un sursaut, pour reprendre le terme que vous avez employé, aussi bien en termes de biodiversité que de climat?
L'expérience a plutôt tendance à nous faire douter. Mais on se dit quand même que malheureusement, la réalité qui nous saute aux yeux tous les jours, est-ce que par exemple l'événement qui est encore parmi nous de cet épisode sanitaire qui a tétanisé l'ensemble de la communauté internationale, on en tirera des enseignements sur les relations de cause à effet qu'il peut y avoir entre la destruction d'un écosystème et à terme sur ses conséquences sanitaires. Ça a été bien documenté sur le SRAS, ça a été bien documenté sur Ebola. La bonne santé de la nature conditionne aussi la bonne santé de l'humanité. Peut-être que malheureusement, ce principe de réalité, oui, sera la petite étincelle qui, à un moment, fera que la prise de conscience se transformera en action radicale.
Vendredi, vous avez déjeuné avec Emmanuel Macron et Harrison Ford, d'ailleurs, entre parenthèses.
Hein, voilà.
Il y a une annonce d'un congrès sur l'océan à la fin de l'année ou début de l'année 2022 par Emmanuel Macron. Franchement, ça sert à quoi alors qu'ici même, on parle océan quand même à Marseille?
Moi, ce que j'ai entendu, et ça serait important, j'en ai parlé d'ailleurs avec le maire de Marseille, c'est qu'au-delà du congrès sur l'océan, il y aurait peut-être une initiative diplomatique sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et je pense que c'est très important d'associer l'ensemble des pays. Je rappelle quand même que plusieurs centaines de millions de personnes vivent dans ce territoire et une grande partie en bordure des côtes, ils sont concernés. Cette mer est excessivement fragile. Les effets du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité sont beaucoup plus manifestes dans cette... Voilà. Donc si on pouvait faire un point de départ d'une grande mobilisation sur la Méditerranée, et les moyens qu'il faudra mettre en œuvre pour sauver la Méditerranée, quelque part, ce sont exactement les mêmes moyens qu'il faudra mettre en œuvre pour sauver les océans. Marseille, peut-être le lieu où cette dynamique partira.
Vous pensez que le président Emmanuel Macron a une volonté réelle en matière de climat et de biodiversité? Il y avait le One Planet Summit en janvier. Est-ce que vous pensez que c'est pas
toujours
que d'affichage
d'être objectif? Il y a toujours une part de volonté et de sincérité. Après, il y a toujours une part de réalité.
Qui n'est pas politique ou électorale?
Mais au nom de quoi pourrais-je le dire? Je veux dire, après, à l'international, reconnaissons que la France, y compris avec les anciens présidents, a quand même souvent pris des initiatives diplomatiques. C'était vrai avec François Hollande, avec la COP21. Maintenant, la question, elle n'est pas là. La question, elle est de savoir, est-ce qu'on en fait suffisamment? Maintenant, quand vous me parlez des uns ou des autres, je veux simplement livrer une petite réflexion. C'est bien d'attendre qu'un président ou un responsable politique, évidemment, s'engage et soit cohérent. Mais quand vous avez vu, par exemple, que cet été, pour la deuxième fois, il y a eu un sondage qui dit qu'un Français sur quatre avoue jeter ses déchets à l'extérieur de sa voiture, c'est vous dire que c'est une responsabilité collective. Et il faut que chacun aussi fasse son acte de conscience.
Merci beaucoup à tous les trois. Sabrina, vous êtes là sur le congrès jusqu'à la fin, le 11 septembre, et vous présenterez votre mail pédagogique aussi au public, c'est ça? Un petit mot avant de se quitter?
Deux ateliers, le vendredi 10 et le samedi 11, ouverts au grand public sur les grands singes, avec comme titre « Les citoyens au secours des grands singes ». Et c'est vraiment ce qu'on veut faire passer comme message, c'est qu'ici aussi, on peut agir en choisissant les aliments qu'on consomme et avoir un effet sur la survie des grands singes et sur l'habitat des grands singes, les forêts tropicales, qui est vraiment vital pour une biodiversité extraordinaire et pour nous humains.
Merci beaucoup à tous les trois, Denise Douganda, Nicolas Hulot et Sabrina Krief. On continue notre balade ici au Congrès mondial de la nature.
France Inter. La Terre au carré.
14h31 et comme tous les jours bien sûr, et même à Marseille, Camille Cronier et Camille Passauvert.
Et je vais peut-être plomber un tout petit peu l'ambiance, alors bon. Je vous préviens parce que bon, on a beau nous être à fond hein, sur le congrès mondial de la nature, sur l'UICN, et ben c'est pas une évidence pour tout le monde, même ici à Marseille.
On sait qu'on a eu la visite de notre cher président, mais à part ça...
Il y a le congrès mondial de la nature, vous en avez entendu parler ou pas?
Non, pas un instant. Non, honnêtement, non, pas un bruit.
Vous savez ce que c'est l'UICN?
L'UICN? Non.
Non, elle ne sait pas, mais on la pardonne en même temps, à part les spécialistes, il n'y a pas grand monde qui sait. Donc je le rappelle, si vous voulez briller ou pas dans les dîners, Union internationale pour la conservation de la nature, dirigée par le Suisse Bruno Oberlé, qui m'a expliqué le but de ce congrès mondial de la nature.
Il y a des millions de personnes autour du monde qui s'engagent pour la nature. Et une fois chaque année, tous ces gens se rencontrent pour faire le point. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Comment on peut avoir plus d'impact sur les discussions politiques en cours? Nous voulons que les gens comprennent que c'est urgent de prendre des actions pour protéger la nature, que c'est urgent qu'on change nos comportements, qu'on change les décisions des entreprises, qu'on change les décisions d'investissement que les banques prennent chaque jour pour tenir en compte les intérêts de la nature et le fait que sans la nature, nous ne pouvons pas survivre.
Alors c'est marrant qu'il parle des entreprises et des banques en particulier, parce que dans la cinquantaine de sponsors et partenaires, il y a BNP Paribas et Caisse d'Épargne, qui font partie des banques qui ont le plus financé les énergies fossiles ces dernières années, plus, et c'est même l'un des principaux sponsors, il est tout en haut sur la page internet, niveau platine, c'est écrit Nutella, qui n'a pas, ce qui n'a pas échappé à la primatologue Sabrina Krief, qui était avec nous il y a un instant.
C'est vrai que ça fait un choc. Ça fait quand même des décennies qu'ils ont contribué à la déforestation. Bon, alors,
la déforestation, eux, hein. La déforestation causée par la culture de l'huile de palme. 20% de chaque pot de Nutella, je le rappelle, en particulier en Malaisie où il se fournit. Mais le groupe Ferrero se défend dans une vidéo.
L'huile de palme durable que nous utilisons respecte l'environnement, protège et préserve la biodiversité.
Alors j'ai demandé ce qu'elle en pensait à Adeline Favrel, responsable forêt chez France Nature Environnement.
Non, ce n'est pas possible. Après, ça dépend ce qu'eux entendent derrière. J'imagine que peut-être qu'ils font de la restauration, mais ce n'est pas sur les champs même que vous allez pouvoir avoir une huile de palme qui protège la biodiversité.
Parce qu'en fait, les dégâts passés et présents, de toute façon, sont réels.
La culture en elle-même fait quelque chose. Tout d'abord parce que c'est des monocultures, donc de grands espaces, donc vous n'avez dans ces champs-là, plus de biodiversité. Vous avez aussi un deuxième problème, c'est que c'est des cultures qui ont souvent recours à des pesticides. Et donc, du coup, il y a des gros impacts à la fois pour la biodiversité, évidemment, mais aussi pour les populations.
Alors, du coup, j'ai demandé une petite explication sur ces sponsors. On n'oublie pas, hein, donc, aussi les banques BNP Paribas et Caisse d'Épargne, au directeur Bruno Oberlé.
C'est des institutions qui représentent les gens normaux. Nous avons tous des livrets bancaires d'épargne. Nutella, je crois que chaque deuxième enfant mange la Nutella et aime la Nutella. Donc, le fait qu'il soit ici, qu'il soit disposé à soutenir, même financièrement, un congrès sur la nature, ça veut dire, et c'est la précondition pour accepter leur argent, qu'ils sont rentrés dans une discussion positive, qu'ils se posent des questions.
C'est pas acheter une bonne conscience, plutôt, pour eux.
Nous, on ne vend pas des consciences. Nous, on demande aux gens de changer leur habitude.
Et j'ai posé la question également à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, présente au congrès.
Si on veut vraiment réussir à sauver la biodiversité, il faut absolument qu'on rassemble tout le monde autour de la table.
Mais entre travailler avec et sponsoriser un événement comme celui-là, il y a un petit décalage.
Sponsoriser un événement, ça veut dire lui fournir des moyens. Le name and shame, je suis pour. Mais le name and shame, ça n'a de sens que si on regarde objectivement le point A et le point B. Alors si vous l'avez fait, je suis d'accord.
Justement, BNP Paribas, Caisse d'Épargne, qui sont dans les banques les plus polluantes, qui ont le plus investi dans les énergies fossiles ces dernières années, là, c'est des faits, c'est des rapports qui sont sortis, qui sponsorisent aussi l'événement.
Oui, bah justement, on leur a dit maintenant qu'il y avait intérêt à se bouger.
Alors, pas trop méchamment quand même, hein, parce qu'elle l'a dit, et c'est ça en fait qui est en dessous de tout ça. C'est le manque de moyens tels qu'il faut en venir à obtenir des financements de ces entreprises. L'ONU estime qu'il faudrait 3% du PIB mondial pour sauver la planète, donc de l'argent des États, je le rappelle. Hein. C'est aujourd'hui 0,10%.
Camille Passauvert en direct de Marseille, c'est à réécouter bien sûr sur franceinter.fr. Et Camille, c'est un sujet qui a fait réagir notre nouvelle invitée qui nous a rejoint, Louise Amand. Bonjour Louise.
Bonjour Louise.
Bonjour.
Alors vous venez de Belgique, vous travaillez pour Vervel, c'est une ONG belge. Pourquoi vous réagissiez au sujet Nutella ?
Ah ben je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, hein, de voir le manque de moyens parfois des ONG ou des institutions internationales et donc de devoir créer des partenariats avec des entreprises qui pour autant n'ont pas toujours, je vais dire, ne sont pas totalement ouverts. Et donc il y a une question d'image derrière tout ça, on est bien d'accord. Mais en même temps, il faut faire avancer les choses. Donc je trouve que c'est toujours assez délicat pour les institutions internationales de se positionner.
Enfin, vous travaillez sur la déforestation quand même au Brésil. Donc oui. C'est un sujet qui vous touche de près. Hein.
Tout à fait. Donc moi, je travaille avec Wervel et avec deux institutions au Brésil, le réseau Cerrado et l'institution Population, Société et Nature. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de déforestation, pas uniquement en Amazonie, mais aussi dans le Cerrado, qui est cette magnifique savane arborée qui couvre une superficie qui est équivalente à la France, à l'Espagne, au Portugal et à l'Italie réunies. Et en fait, personne n'en parle.
La déforestation, elle est due à quoi ? Alors, ce n'est pas du tout l'huile de palme au Brésil, c'est plutôt du soja, l'agriculture aussi, les élevages bovins.
Exactement. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que le Cerrado est plus proche des ports. Et donc, il y a vraiment une agriculture qui marche sur l'entièreté de son territoire, surtout pour du soja, comme vous l'avez mentionné. Moi, j'ai vécu 5 ans au Brésil. J'ai vu vraiment des territoires se transformer quelque part en désert vert à perte d'horizon, parce que les fermes, c'est pas 5 hectares, c'est pas 10 hectares, c'est 10 000 hectares ou encore beaucoup plus. Donc c'est vraiment des dimensions qui sont immenses et qui attristent en fait toute personne qui qui voient cette destruction massive qui se passe sur place.
Et pourtant, le Cerrado, mal connu, hein, d'ailleurs, parce qu'on connaît tous l'Amazonie, mais beaucoup moins le Cerrado, c'est un trésor de biodiversité en soi. Hein.
Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Cerrado et l'Amazonie sont totalement interdépendants. L'un dépend de l'autre et ne vivra pas sans l'autre. Alors que le Cerrado, c'est 5% de la biodiversité mondiale. C'est énorme. Le Cerrado, il accueille aussi 82 peuples indigènes qui sont les gardiens vraiment de ce territoire. Et puis le Cerrado, c'est aussi un château des eaux. C'est-à-dire qu'il est en hauteur et donc il alimente les principaux bassins, même de l'embouchure de l'Amazone jusqu'en Argentine. Donc il a vraiment un rôle dans la régulation de l'eau, mais aussi dans le stockage du carbone.
Alors Louise, avec votre association, justement, le but c'est de travailler vraiment sur la déforestation, l'information autour de l'agriculture, parce que ce que nous mangeons et le soja ici qu'on importe, on a un rôle direct aussi en tant que consommateur.
Exactement, hein. Donc ce soja, en fait, il est exporté vers l'Europe et la Chine. Pourquoi ? Pour nourrir nos élevages de porcs, de vaches, de poulets et même de poissons. Et donc en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que parfois quand on achète de la viande peu chère en supermarché, on est quelque part responsable de cette déforestation qu'on appelle la déforestation importée. Et là, il y a vraiment un levier d'action au niveau de chaque citoyen.
Pour travailler au Brésil, donc où vous êtes, est-ce que c'est facile ces dernières années avec le président brésilien Bolsonaro ?
C'est une vraie catastrophe. Il faut dire que le ministère de la Culture n'existe pas. Même l'éducation a eu énormément de financements qui ont été réduits et l'environnement, le ministère de l'Environnement est fortement contrôlé par le ministère de l'Agriculture au niveau politique. Il faut savoir que la justice aussi ne sait pas remplir son rôle parce qu'elle n'est plus indépendante. Donc c'est extrêmement dur et je pense qu'il est vraiment important de s'unir internationalement et de faire pression de l'extérieur sur le Brésil, notamment en demandant plus de transparence, en demandant plus de traçabilité sur les produits parce que ce sont aussi des produits OGM qui sont produits dans des conditions déplorables.
En tant que Belge, comment vous êtes arrivé un jour dans cette savane arborée du Cerrado au Brésil?
Ah, c'est une vraie histoire d'amour en fait. Moi déjà j'étais passionnée par les peuples premiers dès le départ. J'ai vraiment été là-bas en quête, en recherche même spirituelle. Et puis je suis tombée amoureuse et du Cerrado et d'un Brésilien.
Ah voilà.
Voilà. Et puis j'ai vécu dans une ferme qui a vraiment vécu la transition, qui est allée vers l'agroécologie et qui montre quelque part qu'il y a des solutions et qu'on peut produire tout en conservant la nature.
Justement, je voulais vous demander, il y a des solutions quand même, des choses qui sont faites au-delà de l'exemple que vous venez de nous donner?
Tout à fait. Donc, je parlais de l'agroforesterie et de l'agroécologie. C'est des choses qui existent au Brésil, mais qu'on peut aussi pratiquer ici en Europe. Et puis, comme solution très concrète, de 1, il faut que l'Europe reconquère son autonomie alimentaire et en protéines, qu'on arrête cette dépendance de manière très urgente, qu'on arrête cette déforestation importée. Et ça passe aussi par moins manger de viande ou manger de la viande de plus grande qualité produite localement auprès de producteurs qui savent ce qu'ils donnent à manger à leurs animaux.
Louise Amand, vous avez réalisé un documentaire dont le lien est sur le site de la Terre au Carré, s'appelle Les Pieds sur Terre, tourné justement au Cerrado. Et puis vous faites signer un manifeste ici au Congrès mondial de la nature.
Exactement, c'est vraiment notre rôle aujourd'hui, c'est d'informer et de montrer aux politiciens qu'il faut agir. Et donc on a ce manifeste qui est le manifeste citoyen pour le Cerrado, qui permet vraiment pour nous de faire du lobbying et d'augmenter la visibilité du Cerrado et son rôle pour le monde
en
général.
On peut le trouver sur vervel.be, comme Belgique évidemment, W-E-R-V-E-L, et Chantal Le Montagnier l'a mis sur le site évidemment de la Terre au Carré. Merci beaucoup Louise.
Merci Louise.
D'être passée nous voir. Camille, on peut vivre pas mal d'expériences ici, oui, à Marseille, pour s'immerger donc au congrès avec la réalité virtuelle.
C'est vrai.
On peut aller dans différents écosystèmes. Et samedi, vous avez chaussé un casque pour voler comme un aigle.
Je me suis mise dans les ailes d'un aigle.
Et on y va avec Robin de la LPO.
Eh ben allez, c'est parti. Ouais, je travaille à la LPO ici en région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et alors Camille va devenir quel aigle en particulier, Robin ?
Alors ici, là, c'est un aigle royal. Donc Camille va devenir un aigle royal.
Oh, la classe.
Il fallait bien, ouais, ça quand même.
L'aigle royal, effectivement, qui bénéficie d'un grand capital de sympathie, parce que depuis qu'on est gamin, on imagine l'aigle royal. C'est une très belle espèce, effectivement. La bonne nouvelle de l'aigle royal, c'est qu'en gros, depuis qu'on a arrêté de le persécuter, il revient sur ses anciens territoires. Donc on a de l'aigle au bord de la mer, dans l'Estérel. On a de l'aigle royal pas très loin d'ici, dans la Sainte-Victoire, dans le Luberon.
On le persécutait ?
Eh oui, comme tous les rapaces, on l'accusait de manger du gibier qui doit appartenir qu'à l'homme. On l'accusait même de trucs de légende complètement absurdes, d'enlever des moutons, voire des enfants. Bon, un aigle, ça fait 4 kilos, donc les grosses femelles font 4 kilos. Le message qu'on délivre ici à Marseille, c'est qu'il y a des aigles de Bonelli, qui sont une espèce d'aigle beaucoup plus petite, très claire, qui sont encore parmi les rapaces les plus menacés au monde.
Et pourquoi ?
Ben alors, Loïc de Bonelli, il est menacé parce qu'il est très spécialiste dans son milieu de vie, dans son alimentation et dans les endroits où il peut vivre. C'est un aigle méditerranéen qui a besoin de beaucoup de quiétude, et notamment de quiétude en falaise, là où il niche.
Quiétude égale pas d'homme, en fait, pas d'activité.
Égale pas d'activité, et au moins pas d'activité pendant la période de reproduction. Donc, on travaille maintenant sur un programme qui s'appelle Sport Biodiv, dans lequel on donne les informations sur les applis utilisées par les sportifs pour savoir les périodes de sensibilité, les zones de sensibles, etc. Autre chose qui le menace, quand même, qui est hyper important, c'est la mortalité directe par électrocution et collusion sur le réseau électrique. Ils se prennent les câbles selon là où ils sont situés, selon la météo, etc. Mais la plus grosse problématique, c'est qu'ils se posent sur les pylônes parce que pour eux, c'est des arbres merveilleux qui bougent pas et qui sont pile poil à la bonne hauteur. Et donc, du coup, en redécollant, quand c'est pas équipé, ils peuvent s'électrocuter en touchant les deux connecteurs. Les grandes espèces, que ce soit cigogne, aigle, circaète, etc.
Avec leurs ailes, en fait.
Avec leurs ailes, en fait, ça fait un arc électrique. Alors, ça fait vraiment des années qu'on travaille avec les réseaux de transporteurs électriques, Enedis et RTE. On identifie les secteurs où il y a le plus d'enjeux, parce qu'il y a des millions de kilomètres de lignes, et eux, ils équipent avec des capots en caoutchouc, ou alors avec des systèmes qui empêchent les oiseaux de se poser, tout simplement. Et donc, on essaie d'anticiper. On se contente pas de récolter des cadavres, même si on le fait, et on note tous les pylônes, toutes les lignes, on leur donne une note de dangerosité, et Enedis et RTE s'engagent à équiper.
Romain, est-ce que tu pourrais maintenant équiper Camille pour qu'elle devienne un aigle royal, s'il te plaît?
Parce
que... Allez, va, grand aigle royal, déploie tes ailes.
Je m'envole. Mais je suis complètement au bord de la falaise, j'ai un peu le vertige. Oh la vache! Comment je fais pour aller vite, en fait?
Penche la tête.
Ok, j'ai des super belles montagnes en face de moi, donc je suis en haut du pic du Midi, donc c'est hyper beau, c'est les Pyrénées. Un peu de neige. Je reviens sur les petits flancs de montagne plus dégagés, voilà.
Voler comme un aigle, Camille Crenier l'a fait.
J'ai un peu le mal de mer.
Moi aussi, c'est le mal de mer.
Bah, bravo en tout cas. Cet aigle de Bonelli se porte mieux alors. Hein.
Bah, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mis, un plan national d'action, etc. Donc le Bonelli, il est vraiment sous perf.
Ouais.
Il n'est pas tiré d'affaire, mais il arrête de chuter. Et on a découvert un nouveau couple il n'y a pas très longtemps. Donc,
Ah bon, on termine sur des bonnes nouvelles.
Ça fait du bien.
Ouais, il faut. Ben voilà, maintenant, ce qu'on espère surtout comme bonne nouvelle, c'est qu'on aura des engagements vraiment concrets et forts et puissants pour la protection de la biodiversité. Parce que c'est sympa de faire de l'immersion grand public, c'est sympa d'accueillir tout le monde, c'est sympa de savoir que les politiques sont à côté, qu'ils prennent des décisions. Mais on espère vraiment qu'il y aura des vraies décisions avec des vrais moyens.
Merci Robin.
Merci
pour le voyage. La Terre au carré en direct du Congrès mondial de la nature à Marseille. On se retrouve dans un instant pour parler océan et climat.
Bears, High Flying Birds avec We're On Your Way Now.
Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un congrès comme ça, mondial de la nature ?
Ben, les gens qui viennent ici sont tous convaincus, quoi. Hein. Beaucoup repartent en se disant, j'ai rencontré quelqu'un qui va me dévoyer, ça crée des potentiels entre personnes qui sont actives. Il y a une chose avec la biodiversité, c'est pas le climat. Le climat, c'est quelque chose qui est planétaire. La biodiversité, ça peut se traiter à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un secteur. Et donc, ce sont des chantiers sur lesquels on peut arriver à des résultats tangibles sur des échantillons. Quand je prends une image, tout le temps l'image de la nature, c'est pas le décor de l'existence. Hein, on va se réfugier dans la nature, on la recherche un peu. C'est pas la scène où se joue la comédie humaine, quoi. Hein. La nature, c'est la plus grande mutuelle du monde. C'est comme ça qu'il faut la voir. Toutes les espèces ont la vie en commun. Et nous, on fait partie de cette mutuelle. Mais alors, on est des piètres cotisants et on la pille. C'est cette notion de vision mutualiste qu'il faut avoir de la nature.
Bonjour, Lorelai Picourt.
Bonjour Mathieu.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire générale de la POC, c'est la plateforme Océan Climat. Vous êtes évidemment présente ici au Congrès mondial de la nature de Marseille. Votre mission, c'est justement d'imbriquer la biodiversité et le climat ?
Oui, alors en fait, il faut savoir que nous, on est très concernés par Marseille parce que l'océan, bah, c'est le plus grand écosystème sur Terre. Donc quand on parle d'océan, on parle forcément de biodiversité. Mais il faut aussi savoir que l'océan, c'est le principal régulateur du climat. C'est un peu le thermostat de la planète. Donc effectivement, on ne peut plus aujourd'hui parler de climat sans parler de biodiversité et effectivement sans parler d'océan.
Et l'océan, évidemment, victime des activités humaines et en même temps une des solutions à explorer au plus vite. Hein.
Voilà, ça c'est un message qu'on essaye vraiment de porter. L'océan, évidemment, comme tous les écosystèmes planétaires, subit les impacts du réchauffement climatique, de toutes les pressions des activités humaines. Mais c'est aussi un message d'espoir que nous on porte. L'océan, c'est un océan de solutions en fait. On parle beaucoup d'océans et de solutions fondées sur la nature. Donc par exemple la protection des écosystèmes marins et côtiers qui ont un impact pour la régulation des impacts des événements extrêmes, la montée des eaux également. Et c'est vraiment une source de vie pour toute cette biodiversité sous-marine et également une source de bien-être, de culture, de valeur pour les communautés qui en dépendent.
Lorelai Picourt, est-ce que c'est important dans ce genre d'événement où beaucoup d'acteurs de tous les horizons différents sont réunis, de discuter justement avec tout le monde, y compris avec, entre guillemets, hein, l'ennemi. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de BNP Paribas ou de la Caisse d'épargne qui sont à l'origine d'énormément de gaz à effet de serre en finançant des projets. Pour vous, il faut parler avec tout le monde ?
Oui, tout à fait. Merci Camille. C'est une super question parce que nous, on est un réseau, en fait. On est un réseau, on est 97 membres et donc on regroupe des organisations, des associations, des défenseurs de l'océan, mais on parle aussi avec les entreprises, avec les associations d'entreprises. C'est extrêmement important que tous les acteurs aujourd'hui soient autour de la table.
Ça, sauf que ça bouge pas. Si je prends les derniers exemples que je viens de donner, au contraire, même les financements ont augmenté ces dernières années d'après un rapport au printemps dernier de plusieurs ONG.
Il y a effectivement des... On n'arrive pas exactement à atteindre nos objectifs, notamment climatiques, sur la réduction des gaz à effet de serre, mais il y a aussi des engagements positifs et notamment des engagements financiers pour l'océan. Pour la biodiversité, là, pendant le One Planet Summit de janvier, il y a eu un engagement de la France, de l'AFD, sur 30% de leur financement climat, qui sera maintenant attribué aussi à des projets de biodiversité. Donc effectivement, on peut toujours faire plus et plus loin, mais c'est aussi pour ça qu'on a le Congrès mondial de la nature. Mmh. On a les financeurs qui sont là, on a les bailleurs qui sont présents et qui entendent aussi la voix de toute cette communauté, et la communauté océan est particulièrement structurée, et porte la voix d'un message commun. Et c'est aussi une enceinte où on peut échanger, alors que ce soit dans les grandes plateformes, effectivement, on a les scènes thématiques où il y a des discours, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en off. Hein, clairement, les discussions en bilatéral, on les a aussi dans ces moments de dîner ou même entre les couloirs. Et là, on est. Alors, le congrès n'est pas évidemment à son taux maximum de participants, mais il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui parlent de ça.
Lorelai Picourt, ici, sur le port de Marseille, il y a une tour géante, celle de CMA, c'est l'un des leaders du transport maritime, hein. Ces cargos géants, porte-containers géants qu'on voit sur les mers, c'est souvent CMA. Et vous travaillez avec eux justement pour essayer de faire bouger les lignes ?
Alors oui, tout à fait, on essaye de travailler avec eux. L'enjeu du transport maritime
est ultra polluant, évidemment.
Est extrêmement polluant, ça représente 2,9% des émissions globales.
Et nous, on essaye de travailler à cette transition pour justement des méthodes de navires beaucoup plus éco-responsables. Alors effectivement, c'est difficile, hein, mais si on prend des recommandations comme la réduction de la vitesse en mer, l'éco-conception, avec s'éloigner un petit peu du fuel lourd en fait, et passer par des intermédiaires comme le GNL, mais aussi développer
le gaz naturel liquéfié.
Pardon. Ah oui, cette équipe d'acronymes. Et du coup, comme alternative, et surtout, on croit beaucoup en la technologie, et c'est pour ça qu'on veut ces acteurs autour de la table.
Comment ça, vous croyez beaucoup en la technologie? Ça veut dire quoi derrière cette phrase?
Ça veut dire que nous, on travaille beaucoup avec les scientifiques, notamment, et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur l'océan. On dit souvent qu'on a plus exploré la Lune ou Mars que l'océan, notamment l'océan profond. Et du coup, il y a beaucoup de choses à apprendre des écosystèmes. On parle beaucoup du plancton, notamment avec la fondation Tara Océan. Et il y a beaucoup de choses qu'on a à apprendre sur le fonctionnement de ces micro-écosystèmes qui peuvent aussi nous inspirer pour des solutions innovantes.
Est-ce qu'on aura encore du poisson dans 30 ans ici en Méditerranée?
Ah bah oui, on espère quand même. Il y a beaucoup d'actions qui ont été prises, notamment en Méditerranée. Il y a eu un succès de préservation sur le mérou. Aujourd'hui, le mérou ayant été énormément chassé, il a été protégé intégralement. Et pour avoir plongé encore cet été, il y a des mérous qui font bien un mètre de long. Donc oui, il y a de l'espoir. Et surtout, en fait, c'est la mobilisation de tous. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 3 milliards de personnes sur cette planète qui dépendent des ressources halieutiques, qui dépendent de la pêche. Donc il faut la protéger pour la sécurité alimentaire.
Merci beaucoup Lorelai Picourt, vous qui êtes la secrétaire générale de la POC, la plateforme Océan Climat. Vous suivez justement les COP, hein, vous êtes très près de tous ces événements importants, et évidemment ici à Marseille. Camille,
oui.
On n'a pas trouvé mieux au congrès que le chant des oiseaux, hein, pour
prendre
un peu de calme. Hein.
C'est classique, mais ça fait toujours du bien.
Voilà, avec une installation pour écouter leur chant, une expérience que nous a racontée Anthony Carcone, qui en a eu l'idée, que nous avons rencontré.
Alors là, c'est une installation électroacoustique avec diffusion d'une douzaine d'espèces d'oiseaux en voie d'extinction depuis 25 ans en France et en Europe d'ailleurs.
Lesquels par exemple?
Alors, nous avons le pipit de Farlouze, l'alouette des champs, la tourterelle des bois, le tarier des prés, le coucou gris, le chardonneret élégant. Enfin, on pourrait continuer longtemps malheureusement.
Là, donc il y a des casques, hein, on voit vraiment le public est installé dans des transats avec les casques sur les oreilles. L'idée pour vous c'est quoi avec Birds of Silence?
Je voudrais leur faire écouter ce qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui. Et les gens réagissent plutôt bien, parce que c'est une façon d'approcher la question qui est plutôt douce. C'est une forme de prise de conscience par le son.
Vous, à la base, justement, vous êtes dans le son ou vous êtes côté oiseau?
Moi, je suis artiste sonore. Et en fait, il y a 3-4 ans, je tombais sur un article en parlant de questions de biodiversité, de la chute des espèces d'oiseaux. Et j'étais complètement affolé par cette actu. Et au lieu d'aller hurler dans la rue, j'ai commencé à composer une pièce avec une multitude d'oiseaux. Et je me suis fait aider par le CNRS et le Musée d'Histoire Naturelle qui m'ont donné la liste des oiseaux, des espèces en danger depuis une quinzaine d'années.
Anthony Carcone, oui. Hein, c'est votre nom. C'est presque une séance de méditation. On voit les gens plonger dans un calme et concentration.
J'avoue, je suis très étonné de la réaction des gens. Ça dure à peu près 27 minutes. Et les gens tiennent jusqu'au bout en écoutant les différentes espèces d'oiseaux.
Mathieu essaye de réveiller une dame.
C'est pas sympa. Elle a l'air de dormir très très bien. J'ai honte de vous réveiller, mais j'aimerais savoir ce que vous vivez là en ce moment. Est-ce que vous avez l'air tellement bien dans votre casque à écouter les oiseaux?
En fait, ça nous transporte vraiment dans les milieux. C'est marrant comme cette mémoire sonore nous retransporte. J'essaye de savoir dans quel milieu je suis. J'ai l'impression d'être dans des milieux plutôt ouverts, de prairies au début, et là plutôt dans des milieux plus couverts, de forêts plus denses, peut-être plus humides. En tout cas, voilà, c'était un peu du coup essayer de retrouver le mon vécu avec le son, et en même temps on a l'impression que les sons d'oiseaux passent entre nos yeux. C'est vraiment très intéressant.
Ça détend,
ouais. Ça fait beaucoup de bien.
Merci beaucoup. Merci. Et on va demander aux enfants, là, peut-être Camille aussi.
Comment tu t'appelles?
Gabin.
Alors Gabin, tu nous racontes cette petite expérience d'immersion sonore.
Il y a beaucoup d'oiseaux, on entend beaucoup d'oiseaux. Des pigeons ou des un peu comme ça. Il y a le... Après, comme si des bébés réclamaient à leur maman de la nourriture ou un peu comme ça, des bruits de petits oiseaux.
Et Gabin, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir, toi, ici au congrès pour la biodiversité?
En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses sur les océans, la planète et tout.
Est-ce que t'as appris des choses et quoi?
Je savais pas que le verre, ça se dégradait en plusieurs milliers d'années. Au départ, je croyais que c'était le plastique le plus long, mais en fait, c'est le verre.
Et c'est terminé pour cette émission déjà, Camille, en direct
c'est
du congrès d'Anne-Victoire. Mais vous restez à Marseille.
Oui, moi je reste.
On se retrouve demain.
Pour travailler quand même. Hein. On se retrouve demain. Je vous parlerai des peuples autochtones du côté de l'Amazonie. On parlait du Brésil tout à l'heure, mais je vais en reparler.
Ouais, vous pouvez bien sûr nous laisser vos messages sur le répondeur de la Terre au Carré 01 56 40 45 45 si vous souhaitez par exemple réagir à l'émission d'aujourd'hui, nous parler biodiversité. Demain, quant à moi, je vous retrouve à Paris pour parler des conditions de vie des gens du voyage. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Terre au Carré qui était présente à Marseille et à demain.
À demain.